Les mystères du Palais Royal, deuxième partie. Le fils d'adoption. Chapitre 16. Les convives de Monsieur Benoît. Arrivé au bout de sa course, Nicolas Benoît descendit de son véhicule et entra dans l'hôtellerie. Il monta droit à la chambre de Raoul. La porte de cette chambre était fermée en dedans. Monsieur Benoît frappa.
Qui est là ?
Dit une voix depuis l'intérieur.
« Moi, Nicolas Benoît, je viens pour avoir honneur de présenter mes respects à Monsieur le Chevalier de la Tremblée, et pour l'emmener avec moi, ainsi que cela a été convenu avant-hier, » répondit le faux marchand.
« C'est bien, » dit la voix, « on va vous ouvrir, mon cher Monsieur Benoît. » En même temps, on entendit tirer des verrous, et la porte tourna sur ses gonds. Monsieur Benoît put entrer. Raoul était assis dans le fond de la chambre, et c'est Jacques qui venait d'ouvrir. Monsieur de la Tremblée se leva, courut au-devant de son perfide ami, et lui serra très affectueusement la main.
« Monsieur le chevalier, lui dit Benoît en souriant, votre chambre est une véritable forteresse. Pour y rentrer malgré vous, il faudrait en faire le siège.
Ne m'avez-vous pas vous-même recommandé la prudence ?
Sans doute, et je ne puis que vous approuver.
« Depuis le moment où vous m'avez quitté avant-hier, je n'ai pas mis les pieds dehors. »«
Cette suggestion doit vous peser beaucoup. »«
Un peu. »« Par bonheur, vous en serez bientôt quitte. »«
Comment cela ? » ?»«
Nous allons dîner aujourd'hui avec mon ami d'Estagnac, le major au régiment de Royal Champagne. »«
Lui avez-vous déjà parlé de mon affaire ?»«
Sans doute. » »«
Et qu'a-t-il répondu ?»
Il a répondu que l'on devait se soutenir et se venir en aide entre bons gentilshommes, qu'un d'Estagnac ne pouvait laisser un La Tremblée dans l'embarras, et que ce serait pour lui tout à la fois un honneur et un plaisir que de pouvoir vous être utile et agréable.
Ainsi, vous avez bon espoir ?
J'ai toute certitude que nous réussirons.
Dieu vous entende.
Il m'entendra. Gardez-vous d'en douter, monsieur le chevalier. Après avoir ainsi parlé, Nicolas Benoît tira de sa poche un chronomètre de la largeur d'une pièce de 6 francs et d'une épaisseur de 3 doigts. Il en consulta le cadran, puis il dit « Monsieur le chevalier, j'aurai l'honneur de vous faire observer qu'il se fait tard, que le dîner sera bientôt prêt, et qu'un repas qu'on fait attendre perd les 3/4 de son mérite.
Je suis prêt à vous suivre, monsieur Benoît.
Alors, nous nous mettrons en route quand il vous plaira.
À l'instant même. »
Raoul prit son chapeau, puis il se tourna du côté de son jeune domestique, qui, debout auprès de la porte, avait assisté à toute la conversation que nous venons de reproduire.
« Jacques, lui dit-il.
« Monsieur le chevalier ? » demanda l'enfant. « Vous n'oublierez aucune de mes recommandations, n'est-ce pas ? »
« Soyez tranquille, monsieur le chevalier. »
« Sous quelque prétexte que ce soit, vous ne bougerez de cette chambre.
Le feu prendrait à la maison que je me laisserais brûler ici. » Sans quitter la valise que vous me confiez.
C'est bien. Vous aurez l'œil ouvert, l'oreille au guet, le pistolet au poing.
Oui, monsieur le chevalier.
Enfin, vous pousserez soigneusement les verrous aussitôt après mon départ, et vous ne me rouvrirez la porte que quand j'aurai prononcé mon nom, et que vous serez bien certain d'avoir reconnu ma voix.
Jacques s'inclina, et monsieur Benoît sortit de la chambre avec Raoul de la Tremblée.
Tous deux s'installèrent dans la chaise à porteur qui les attendait devant l'hôtellerie. « Rue Greneta, à l'enseigne du Bélier d'Argent, » dit M. Benoît, qui, avant de monter auprès de Raoul, avait donné quelques instructions à ses porteurs. Le véhicule s'ébranla. Le petit vieillard renoua la conversation.
« Monsieur le chevalier, » dit-il, « je sais à merveille que la société d'un pauvre négociant comme moi ne peut être fort agréable pour un gentilhomme de votre sorte.
Raoul voulut interrompre son interlocuteur, mais ce dernier ne lui en laissa pas le temps et poursuivit tout aussitôt.
« Oui, monsieur le chevalier, je sais cela. Et tout ce que vous me pourriez dire par politesse et par bienveillance ne me convaincrait point du contraire. Or, je me suis efforcé de remédier par le choix de mes convives d'aujourd'hui à l'inconvénient que je signale.
Monsieur Benoît, je vous jure que votre société m'aurait suffi.
Vous ne pensez point ce que vous dites, monsieur le chevalier.
Si, vraiment. Je n'en crois pas un mot et je poursuis.
En outre de ma nièce, dont je vous ai déjà parlé et qui ressemble bien moins à une petite bourgeoise du quartier Saint-Denis qu'à une véritable duchesse de la place royale, en outre de mon ami le major, nous aurons un jeune seigneur, très galant homme et fort bien en cour, dont la famille daigne accorder à la mienne une protection héréditaire depuis près de 300 ans bientôt. Vous connaissez sans doute de réputation ce jeune seigneur, qui s'appelle le vicomte Roland de Silvera. Raoul n'avait jamais entendu prononcer ce nom. Cependant, il se crut obligé de répondre. « Oui, oui, les Silvera, excellente noblesse. J'en ai ouï parler 100 fois, tout au moins. » Le vicomte Roland est puissamment riche, poursuivit M. Benoît. Et en maintes occasions, Monseigneur le Régent l'a honoré d'une distinction toute spéciale. Liez-vous avec lui fort étroitement, je vous le conseille. Vous vous en trouverez bien, croyez-moi. Il vous rendra en temps et lieu les services les plus signalés. C'est un seigneur qui aime à obliger et qui peut facilement le faire. Est-il de mon âge ? Demanda Raoul. Pas précisément. Il approche de la trentaine, mais il paraît n'avoir guère plus de 25 ou 26 ans, et il est très jeune de caractère. Je ferai mon profit de vos excellents conseils, fit le chevalier. Et vous aurez par Dieu raison, s'écria Monsieur Benoît. Et votre ami le major, vous ne m'en avez encore rien dit. Quel homme est-ce? C'est un bon gentilhomme, un brave militaire, et qui plus est, un charmant garçon, vous verrez. Tancrède d'Estagnac n'a de gascon que le nom qu'il porte, et un accent dont il n'a jamais pu se défaire complètement. Il est du reste la franchise, la loyauté et la véracité en personne. Oh, je n'accorde mon amitié qu'à des gens sur le compte desquels il n'y a pas le plus petit mot à dire. En ce moment, la chaise à porteurs s'arrêta. Monsieur Benoît mit le nez dans la rue. Nous sommes arrivés, dit-il. Votre conversation a tant de charme pour moi, monsieur le chevalier, qu'il me semblait que nous ne faisions que de partir. Raoul et son interlocuteur descendirent de la chaise et M. Benoît paya et congédia ses porteurs. Puis, avant d'introduire le chevalier dans la boutique, dont la porte n'était qu'entr'ouverte, il éleva la main pour lui faire remarquer le tableau mirobolant qui ne datait que de la veille et il s'écria. Cette enseigne du Bélier d'argent, cette vieille enseigne connue et honorée de tout Paris, est fière, monsieur le chevalier, de l'honneur que vous lui faites aujourd'hui, et vous en remercie par ma voix. » Puis, sans attendre la réponse de Raoul, M. Benoît le fit entrer dans la maison. Le magasin était obscur. On apercevait dans la pénombre les comptoirs chargés de marchandises et les piles de ballots symétriquement alignées. « Monsieur le chevalier, » dit M. Benoît en passant, « il y a là du drap de quoi habiller 10 compagnies comme celles que vous commanderez bientôt. » Je compte que vous penserez à moi pour les fournitures nécessaires à l'équipement de vos hommes. J'ai un assortiment de draps bleus d'une qualité tout à fait supérieure. Cette fourniture vous est acquise d'avance, répondit Raoul en riant. Les deux hommes pénétrèrent dans l'arrière-boutique, transformée, comme nous savons, en salle à manger. Par un contraste habile qu'on appréciait vivement en sortant du magasin, cette pièce était éclairée d'une façon vraiment splendide. 4 candélabres chargés de bougies répandaient leur clarté étincelante sur une table recouverte d'une nappe en toile de Hollande damassée et bien pourvue d'argenterie et de cristaux. Cette clarté vive et franche faisait ressortir l'élégance et le luxe du service. Raoul en fut ébloui. Mais, au moment où il ouvrait la bouche pour complimenter M. Benoît, il aperçut Émeraude et il se mit à la contempler avec une admiration manifeste. La jeune fille, en se voyant l'objet de l'attention de Raoul, lui sourit agréablement et lui fit la plus modeste et la plus gracieuse révérence. « Monsieur le chevalier, » dit alors Benoît en prenant Émeraude par la main, « j'ai l'honneur de vous présenter ma nièce. Je vous ai prévenu qu'elle était jolie femme. C'est à vous de juger si je vous ai trompé. » « Ah, mon cher hôte, » s'écria Raoul, « vous ne m'en aviez pas dit assez. » « Mademoiselle n'est point une mortelle, elle est une nymphe, elle est une divinité. » Benoît se mit à rire de cet enthousiasme mythologique. « Telle que vous la voyez, dit-il, la chère petite est mon unique héritière, attendu que je suis et que je resterai garçon. Elle possédera quelque jour une 20aine de bonnes 1000 livres de rente amassées tout doucettement par son vieil oncle, en vendant des laines et du drap. Et ma foi, celui qui deviendra son mari pourra se vanter de n'avoir point fait une trop mauvaise affaire. » Benoît se frotta les mains. Émeraude baissa ses grands yeux. Raoul se mit à réfléchir. Il lui paraissait clair comme le jour que le vieux marchand venait en quelque sorte de mettre à sa disposition la main de sa jolie nièce et les 20 000 livres de rente dont elle hériterait plus tard. Or, Raoul ne se sentait point assez bon gentilhomme pour reculer devant une mésalliance aussi avantageuse que celle-là. Il prit la main de M. Benoît et il la serra entre les siennes d'un air d'intelligence. « Mon enfant, demanda le marchand Mercier à sa nièce prétendue, le major n'est-il point arrivé ?»«
Non, mon bon oncle. »«
Ni monsieur le vicomte ?»«
Personne.
Ces messieurs sont en retard. Heureusement que le dîner n'est pas encore servi. » À ce moment précis, on frappa d'une façon particulière à la porte extérieure. Et au bout d'une minute, deux nouveaux venus entrèrent dans l'arrière-boutique. C'était le brillant gentilhomme Roland de Silveira et avec lui le digne Tancrède d'Estagnac, major au régiment de Royal Champagne. Chapitre 17. Le dîner de Monsieur Benoît. Le major Tancrède d'Estagnac et le vicomte Roland de Silveira avaient fait de grands frais de toilette. Le major portait l'uniforme gracieux et coquet du régiment de Royal Champagne. Cet uniforme consistait en un habit de drap cramoisi, galonné en or, une veste pareille bordée de la même façon, une culotte blanche, des bas de soie et des souliers à boucles. Son épée de cérémonie lui battait les mollets. Son chapeau lampion, à larges ganses d'or et à cocarde blanche, s'inclinait d'un air conquérant vers l'oreille droite sur sa perruque bien poudrée. Sa moustache noire formait les crocs les plus vainqueurs et les mieux affilés. Le vicomte Roland de Silveira était éblouissant de toilette. Son habit de gros de tour, d'une couleur violette, sortait évidemment des mains du tailleur le plus en renom. De délicates broderies rehaussaient sa veste de moire blanche. Rien n'égalait la magnificence des dentelles de son jabot et de ses manchettes. Il portait au doigt annulaire de sa main gauche un solitaire, qui, s'il était vraiment originaire des mines de Golconde, devait valoir au moins 100 000 livres. Chacun de ses mouvements de tête secouait autour de lui un nuage parfumé de poudre à la maréchale. Enfin, il exhalait une odeur d'ambre et de musc d'une finesse exquise et d'un arôme tout à fait aristocratique. Somme toute, le militaire et le gentilhomme, le major et le vicomte, avaient tous les deux fort bon air, et Raoul, qui ne pouvait d'ailleurs concevoir aucun soupçon, était très excusable de se laisser prendre ainsi qu'il allait faire à l'habile comédie de ses adroits fripons. Nicolas Benoît courut à la rencontre de ses hôtes. Après les premières révérences échangées, il leur présenta Raoul, qui fut accueilli par eux avec la plus bienveillante politesse. Les deux hommes s'inclinèrent ensuite devant Émeraude, qui leur rendit leur salut avec une modestie timide et en baissant ses beaux yeux. Presque aussitôt, les garçons du restaurateur auquel s'était adressé M. Benoît apportèrent le dîner. La table se trouva comme par enchantement, couverte de mets, et le marchand Mercier s'écria « À table, messieurs, ne laissons rien refroidir !» Ce conseil gastronomique fut suivi à l'instant même. Chacun prit place dans l'ordre suivant. Émeraude au milieu, le vicomte à sa droite, Raoul à sa gauche, puis le major à côté de Raoul et M. Benoît lui-même entre le major et le vicomte. Les premiers moments du repas furent silencieux. On n'entendait que le bruit des cuillères fonctionnant méthodiquement. Les convives faisaient honneur à l'excellente bisque aux écrevisses servie sur la table du Mercier. Raoul mangeait avec appétit. Mais à chaque seconde, il regardait Émeraude à la dérobée, et son regard exprimait clairement une admiration dangereuse. Un ou deux flacons de vieux vin d'Espagne délièrent la langue des convives, et tandis que M. Benoît découpait avec une truelle en argent un magnifique turbot à la financière qui servait de relevé de potage, la conversation s'engagea. « Savez-vous bien, cher M. Benoît,
dit le vicomte Roland de Silvérin, que c'est plaisir de dîner au Beignet d'Argent. Je ne parle point de la réception charmante du maître du logis, non plus que des grâces printanières de son adorable nièce. Je parle de la merveilleuse ordonnance qui préside à ces festins. Benoît s'inclina. « Monsieur le vicomte, murmura-t-il, vous me flattez. » « N'en croyez rien, répondit le gentilhomme. Je dis ce que je pense. Les soupers du régent sont moins bien entendus que les repas auxquels vous nous conviez. » « Oh ! Fit Benoît. « N'est-ce pas votre avis, major ? Poursuivit le vicomte. « Oui, parbleu ! Répliqua l'officier, la bouche pleine et avec un accent gascon fortement prononcé. « Et vous, monsieur le chevalier, qu'en pensez-vous, je vous prie ? Demanda Roland en s'adressant à Raoul. « Ma foi, monsieur le vicomte, répondit ce dernier, je n'ai point assisté au souper du Palais-Royal. Je ne suis point juge compétent de la question délicate que vous me faites l'honneur de me soumettre. Mais ce que je puis décider hardiment, c'est qu'il est impossible de rencontrer dans le monde entier une table mieux servie et surtout une plus gracieuse et plus charmante compagnie. » Le jeune homme, en prononçant ces derniers mots, s'inclina légèrement du côté d'Émeraude. « Ah, bravo, bravo !» firent à la fois le vicomte, le major et M. Benoît. « Peste ! » s'écria Roland. « Notre cher hôte ne m'avait-il pas raconté tout à l'heure que vous arriviez de province ?»« Le diable m'emporte si j'en crois maintenant un seul mot !»« C'est pourtant vrai !» dit Raoul. « Allons donc ! Je vous l'affirme ! Vous venez à Paris pour la première fois ?»« Mon Dieu, oui !»« Et vous y êtes depuis... »« Depuis 2 jours !» À d'autres, je vous jure, à d'autres, vous dis-je, ce n'est pas moi qu'on peut tromper ainsi. Je m'y connais, monsieur le chevalier, et je sais à merveille que ce n'est point en courant le renard au fond d'une province que l'on acquiert, ainsi que vous l'avez, une tournure de gentilhomme, ayant ses entrées au lever du roi, et sachant faire des compliments aussi délicats et aussi charmants que celui de tout à l'heure. Monsieur le vicomte, demanda Raoul, doutez-vous de moi? Dieu m'en garde! « Eh bien, je vous donne ma parole d'honneur que je viens à Paris pour la première fois et que j'y suis depuis 2 jours. »« Je me rends, » murmura le vicomte d'un air abasourdi. « Mais c'est prodigieux !»« Vous êtes 1000 fois trop indulgent. »« Je ne suis que juste, croyez-moi, monsieur le chevalier. Vous irez loin. »« J'en accepte l'augure. »« Me permettez-vous de vous adresser 2 ou 3 questions que me dicte l'intérêt le plus vif ?» Non seulement je vous le permets, mais encore je vous en saurai un gré infini. Eh bien, êtes-vous à Paris pour y solliciter quelque place à la cour du régent? Dans ce cas, je m'estimerais heureux de mettre tout mon crédit à votre disposition. Non, répondit Raoul, je ne puis aspirer si haut. Peut-être n'êtes-vous pas riche? En effet, je suis presque pauvre. Et cette fortune qui vous manque, souhaitez-vous l'acquérir? Je le souhaite ardemment. « Eh bien, c'est facile. »« Comment ? Prenez du service. » »« J'y songeais déjà. » »« Achetez une compagnie dans quelque régiment d'élite. Là, comme ailleurs, on vous remarquera. »« Vous ferez parler de vous. »« Le régent voudra vous voir. »« Des amis bien placés vous appuieront chaudement. »« Vous épouserez quelque riche héritière. »« Au lieu de commander une compagnie, vous commanderez un régiment. »« Et vous deviendrez un grand personnage. » « Voilà votre horoscope. Vous pouvez m'en croire. Je ne me trompe jamais. »« Oh, que c'est donc bien là mon avis !» s'écria Benoît. « Monsieur le vicomte a dit tout justement ce que je pensais et ce que j'allais dire. »« Oui, monsieur le chevalier. Oui, mon jeune ami. Permettez-moi de vous donner ce nom si doux. C'est là votre horoscope tout entier. Et quant à la riche héritière, peut-être qu'en cherchant beaucoup et en cherchant longtemps, nous viendrons à bout de vous la trouver. » Et M. Benoît frotta joyeusement ses 2 mains l'une contre l'autre en riant d'un petit rire significatif et en enveloppant d'un même regard Raoul et Émeraude qui se trouvaient, nous le savons, à côté l'un de l'autre. Le jeune homme leva instinctivement les yeux sur sa jolie voisine et il crut s'apercevoir que le beau nuage pourpre de la plus aimable pudeur envahissait ses joues et montait jusqu'à son front. « Ainsi, c'est bien convenu ? » fit Benoît. « Notre jeune ami prend du service ?»« Oui, 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 » répondit le vicomte, « c'est parfaitement convenu. »«
Vous savez, dit Raoul, que pour cela faire, il est indispensable que je trouve à acheter une compagnie.
C'est juste, répliqua Roland de Silveira.
Mais une compagnie, cela se trouve.
Pas toujours, murmura Benoît.
Major, demanda le vicomte, il n'y a pas une compagnie à vendre dans votre régiment de Royal Champagne?
Cela dépend, fit le major.
Comment cela dépend?
Oui.
De quoi?
De la roulette, du pharaon, du creps, du lansquenet et des chances plus ou moins favorables d'une martingale et d'un paroli.
Vous parlez par énigme.
Pas le moins du monde.
Enfin, nous ne vous comprenons point. Expliquez-vous donc, s'il vous plaît.
C'est facile. Il y a parmi les officiers de mon régiment un jeune gentilhomme qui s'appelle le baron Hector de Cardaillac. Je le connais un peu. Vous savez alors qu'il est joueur comme les cartes. Il me semble en effet que je l'ai entendu dire. Tout ce qu'on a pu vous raconter à ce sujet est certainement bien au-dessous de la réalité. Il y a des gens qui ne jouent que pour vivre. Hector, lui, bien au contraire, ne vit que pour jouer. Et ce qu'il y a de pis, c'est que le pauvre garçon est poursuivi par le plus épouvantable guignon. Jamais je ne l'ai vu gagner. Il joue toujours et il perd sans cesse.
Ce sont ces joueurs malheureux qui sont les plus enragés, fit le vicomte de Silveira en manière de réflexion philosophique. Puis il ajouta,
allez, mon cher major, allez.
Il faut vous dire, poursuivit le major, que le baron Hector de Cardaillac possédait une tante, respectable douairière, adorant son coquin de neveu, auquel elle se proposait de laisser toute sa fortune.
Enfin, une tante à succession, interrompit M. Benoît.
J'en ai dévoré quatre, s'écria le vicomte en riant.
Le major continua. Cette parente estimable, dit-il, payait volontiers les dettes du baron. Et celui-ci, constamment mis à sec par les hasards malencontreux du tapis vert, ne se faisait point faute de puiser dans cette bourse incessamment ouverte.
Et, interrompit le vicomte pour la seconde fois, la douairière, enfin lassée, a signifié sans doute à monsieur son neveu qu'il eût à ne plus compter sur elle.
Point du tout.
Qu'est-ce donc?
Elle s'est laissée mourir à la fin du mois dernier.
En déshéritant le baron?
En l'instituant son seul et unique héritier, son légataire universel.
Et elle était riche?
Elle possédait une trentaine de bonnes 1000 livres de rente.
Major, je ne comprends pas un seul mot à tout ce que vous nous racontez là.
Attendez donc un instant, je vais devenir transparent comme un cristal de roche.
Voyons. Aussitôt mis en possession de sa fortune, Hector de Cardaillac a demandé un congé et il est venu à Paris.
Savez-vous pourquoi faire?
Non, ma foi.
Pour se venger de la mauvaise chance qui s'était jusqu'à ce jour acharnée contre lui, pour prendre sa revanche contre le hasard et le combattre en bataille rangée avec une armée de billets de caisse en guise d'artillerie et de troupes légères. En d'autres termes, pour regagner, à force d'audace et de bonheur, toutes les sommes qu'il a perdues depuis le jour où il a touché des cartes pour la première fois.
Diable, diable, ah ça, ce jeune homme est donc fou.
Il n'est pas fou, il est joueur.
C'est à peu près la même chose.
Or, j'ai rencontré le baron il y a 3 jours.
Que vous a-t-il dit?
Il m'a dit qu'il avait déjà perdu environ la moitié de la fortune léguée par sa tante.
Et cela ne lui servirait point de leçon.
Allons donc, il a ajouté qu'il ne se décourageait nullement et qu'il venait de découvrir une martingale infaillible avec laquelle, en 3 fois 48 heures, il avait la certitude de faire sauter toutes les banques et de devenir 10 fois millionnaire.
Le vicomte se mit à rire et les autres convives imitèrent son exemple.
Le major reprit.
Il est vraisemblable qu'à l'heure qu'il est, monsieur de Cardaillac a perdu jusqu'à son dernier sou, et que sa confiance en sa martingale ne s'en trouvant point diminuée, il vendra sa compagnie pour essayer de se rattraper.
C'est probable, en effet, répondit le vicomte.
Cela me paraît certain, appuya Benoît.
Il serait urgent de voir le baron sans perdre de temps, reprit monsieur de Silveira, afin que s'il est possible de conclure avec lui une bonne affaire, ce soit notre jeune ami qui en profite.
Je le verrai demain, répondit le major.
Vous savez son adresse?
Oui.
Où demeure-t-il?
Rue des Bons-Enfants,
à l'hôtel de la Croix de Malte. J'y passerai dans la matinée, je vous le répète. »
« Ah !» s'écria Raoul avec expansion. « Que vous êtes bons pour moi, messieurs, et quelle reconnaissance ne vous devrais-je pas ?»«
Allons donc !» dirent à la fois les trois hommes en imposant silence à leur jeune compagnon avec une insistance affectueuse.
« Combien cela peut-il coûter une compagnie ?» demanda Nicolas Benoît à Monsieur d'Estagnac.
« Cela dépend. »«
De quoi ?»«
D'abord du régiment dans lequel on veut entrer. »
« Dans le vôtre, par exemple. »«
Oh, Royal Champagne est fort cher, le plus cher, sans contredit, de tous les corps d'élite. »«
Cela tient en partie à l'uniforme, qui est fort coquet, comme vous voyez. »« Les jeunes gens de famille attachent une grande importance à ces petits détails qui rehaussent leur bonne grâce naturelle et qui donnent dans l'œil de toutes les femmes. »«
Ah !» s'écria Nicolas Benoît.
« Le fait est que Monsieur le Chevalier serait irrésistible sous ce frac écarlate. »
« Je plaindrais les pauvres maris de toutes les villes où Monsieur le Chevalier tiendrait garnison. »
Et Benoît se mit à rire de nouveau en se frottant les mains de plus belle. Au bout d'un instant, il ajouta
« Enfin, ce prix, Monsieur le Major, voyons. »«
50 000 livres, tout au moins, » répéta Tancrède d'Estagnac.
« Diable !» fit Benoît.
« 50 000 livres, » répéta Raoul avec épouvante et découragement.
« Mais, » reprit le marchand mercier, « n'y aurait-il pas moyen de marchandir un peu ?»«
Impossible. Si Monsieur de Cardaillac voulait vendre, et s'il se donnait le temps et la peine de chercher un acquéreur, il trouverait facilement 60 000 livres. Seulement, pressé par le désir de réaliser, il se décidera peut-être à faire un sacrifice. »«
N'y pensons plus, » murmura Raoul.
« Pourquoi donc ?» demanda Benoît.
« Vous connaissez la somme dont je puis disposer. »«
Sans doute. »
Et vous savez que cette somme n'atteint point ce chiffre indispensable de 50 000 livres.
Qu'importe cela?
Mais il me semble...
Il vous semble mal, monsieur le chevalier.
Faites-vous donc si piteux état de moi, et comptez-vous si peu sur ma parole et sur ma sympathie?
J'espérais mieux, monsieur le chevalier.
Franchement, je l'avoue, j'osais compter que dans un cas comme celui-ci, vous me diriez tout bonnement...
Benoît, il me manque 10 000 livres.
« Afin de me procurer le plaisir de vous répondre, monsieur le chevalier, les voici. »
Raoul, profondément touché, ne put que prendre la main de Nicolas Benoît et la serrer chaleureusement entre les siennes.
« Ainsi, reprit ce dernier, c'est convenu. Vous disposez de moi ?»«
Oui,
à la bonne heure. Vous entendez, monsieur le major, nous achetons la compagnie du baron Hector de Cardaillac, si elle est à vendre, et nous l'achetons quel qu'en soit le prix. »
« Comptez sur moi, » dit Tancrède, « je ne négligerai rien pour mener cette affaire à bonne fin. »«
Et maintenant, messieurs, » fit le vicomte de Silvérin en soulevant son verre, « je porte la santé de Mademoiselle Émeraude, notre charmante hôtesse. »
Tous les verres se heurtèrent à l'instant même, et la santé de la jeune fille fut portée à 3 reprises. Le repas continua. Des vins exquis se succédaient et circulaient sans cesse. En même temps que leurs flots lumineux étincelaient comme des rubis, et comme des topazes dans le cristal des coupes, la joie la plus folle envahissait l'esprit des convives. Cette gaieté, cependant, ne franchissait point les strictes limites de la retenue et de la décence, et le dîner de la rue Grenetat ne ressemblait en rien au souper de la rue du Gindre. La joie un peu bruyante de Nicolas Benoît était la joie naïve et expansive d'un bon bourgeois, heureux et fier de recevoir chez lui des gens d'une condition supérieure à la sienne, et de les traiter splendidement. Raoul oubliait ses chagrins passés, et son imagination nageait à pleine brasse dans les eaux limpides d'un avenir couleur de rose et d'or. Il s'enivrait de la double ivresse des vins généreux que lui versait Benoît, et de celle qui puisait au regard des beaux yeux d'Émeraude, qui lui semblaient devenir tendres et caressants en se fixant sur lui. Un moment arriva où la serviette d'Émeraude glissa de ses genoux et roula sous la table. Raoul se baissa vivement pour la relever. La jeune fille avait fait le même mouvement. Ses cheveux effleurèrent le front de Raoul et l'inondèrent de leur parfum léger. Ses doigts mignons touchèrent la main de Raoul pendant le quart d'une seconde. Une sensation inconnue et délicieuse courut alors dans les veines du jeune homme et le fit tressaillir comme si l'ange de la volupté l'avait caressé du bout de son aile. Il lui sembla que tout le sang de son corps affluait à son cœur, plus rapide, plus chaud, plus
plus vivifiant que par le passé. Alors, avec une audace inouïe et qui puisait sa source dans les flacons de vin de Madère et du vin de Champagne, il se pencha vers Émeraude, il passa son bras frémissant autour de sa taille si souple et si cambrée, et sa voix émue murmura tout bas « Je vous aime ». Ce à quoi la jeune fille répondit avec un regard charmant et une modestie de pensionnaire.
« Je dépends de mon oncle, monsieur. Adressez-lui votre demande, et s'il l'accueille, je ne la repousserai point. »
Cet aveu, quoiqu'indirect, ajouta encore au délire de Raoul.
« Ange, murmura-t-il, à toi mon nom, à toi ma vie, à toi ma compagnie dans Royal Champagne, à toi, à toi, à toi, à toi !»
Puis il n'ajouta plus rien que quelques paroles indistinctes et mal prononcées. Ses coudes s'appuyèrent sur la table et sa tête tomba sur ses mains. Il était tout à fait gris. 2 minutes après, il dormait. Les 4 personnages qui se trouvaient en ce moment auprès de Raoul, dans l'arrière-boutique de la maison du Bélier d'Argent, c'est-à-dire Émeraude, Nicolas Benoît, le vicomte Roland de Rivera et le major Tancrède d'Estagnac, reposèrent sur la nappe les verres qu'ils approchaient déjà de leurs lèvres, se regardèrent et, faisant comme les augures de la vieille Rome, ils rirent en se regardant. Mais ce rire fut silencieux et muet. Évidemment, ils ne voulaient point, par d'indiscrets éclats, réveiller leur hôte endormi. Benoît fut le premier qui rompit le silence. Et encore, ce fut à la manière des sourds-muets qui se font comprendre par signes. Il désigna successivement Raoul, puis lui-même, puis ses 3 acolytes, et il fit à 2 reprises le geste d'applaudir. C'était une façon ingénieuse de témoigner que tout le monde avait fait son devoir. Le major et le vicomte le comprirent ainsi, et comme d'autres occupations les appelaient sans doute ailleurs, ils échangèrent une poignée de main silencieuse avec l'oncle et avec la nièce, et ils sortirent sur la pointe du pied de l'arrière-boutique du Bélier d'Argent. Monsieur Benoît, Émeraude et Raoul restèrent seuls. Chapitre 18. La Naïade. Au bout d'une ou 2 minutes, Émeraude s'approcha de son oncle prétendu et lui dit tout bas.
« Je pars. »«
Où allez-vous ? » demanda Benoît du même ton.
« Je vais où j'ai affaire.
Il me semble, mon cher associé, que vous devenez bien curieux. »«
Encore quelque amourette ? » ?»«
Peut-être bien. » »«
Tête folle. » »«
Vieux grondeur. » »«
Mais, » poursuivit Benoît en montrant Raoul, « s'il vous demande en se réveillant. » »«
C'est en vérité fort embarrassant. » « Vous lui répondrez que je suis monté dans ma chambre. Ceci est naturel et convenable, ce me semble. Je crois que le pauvre garçon est amoureux de vous sérieusement.
Ne dites pas cela.
Pourquoi ?
Parce que cet amour me ferait de la peine.
Plaisantez-vous ?
Pas le moins du monde.
Toute la soirée, je me suis senti le cœur gros. J'avais comme un remords d'être votre complice dans cette abominable affaire. Car c'est une infamie, savez-vous ? Que de dépouiller ainsi ce malheureux gentilhomme.
Si je le sais, riposta carrément Monsieur Benoît.
Par Dieu, oui, je le sais à merveille que c'est une infamie. Mais elle est lucrative, et nous en faisons souvent d'aussi lourdes qui ne nous rapportent rien.
Ce jeune homme est charmant, murmura Émeraude d'un air mélancolique et en abaissant ses beaux yeux qu'elle avait fixés sur Raoul pendant que Benoît parlait.
Prenez garde à vous, mignonne, reprit ce dernier.
Pour un peu, du train dont votre petit cœur galope et dont votre jolie tête travaille, vous vous éprendriez pour tout de bon du chevalier Raoul de la Tremblay.
Peut-être.
Comment dites-vous ?
Je dis peut-être.
Et que feriez-vous dans ce cas ?
Je sauverais ce jeune homme et je l'arracherais de vos griffes.
Pardon, ma chère, mais il me semble que vous oubliez...
Quoi ?
Un article du règlement de notre association.
Lequel ?
Celui-ci. Si l'un d'entre nous trahissait les intérêts de la communauté et faisait manquer sciemment et par son mauvais vouloir une entreprise commencée par nous, ce frère déloyal serait mis au banc de l'association et chacun de nous ferait le serment de le poursuivre, partout et toujours, de sa haine et de sa vengeance.
Émeraude baissa la tête et ne répondit point.
« La mémoire vous revient-elle ? » demanda Benoît d'une façon sournoise.
« Oui, » murmura la jeune fille.
« Fort bien. Ne disons donc plus de choses inutiles. Et puisque vous êtes attendue ailleurs, allez, ma chère enfant, je ne vous retiens pas.
« Quand aurez-vous besoin de moi ?»«
Demain.
À quelle heure ?»«
À midi. » »«
Où ?»«
Ici. » »«
Je serai exact. » »«
J'y compte. » »«
Bonsoir, vieux diable. »
Bonsoir, diablotin charmant. »
Émeraude jeta sur ses épaules un mantelet d'étoffe commune, dont elle rabattit à moitié le capuchon sur sa figure, ce qui lui donnait parfaitement la tournure d'une petite grisette revenant de son ouvrage. Elle laissa tomber sur Raoul un dernier regard langoureux et presque triste, et elle sortit de l'arrière-boutique, puis de la maison. Nicolas Benoît se rassit en face de Monsieur de la Tremblée et se remit à boire. Il était près de minuit quand le faux marchand mercier, trouvant que son hôte avait assez dormi, se leva de table et renversa brusquement une chaise. Raoul s'éveilla en sursaut. Ses yeux étaient encore gros de sommeil et la confusion la plus absolue régnait dans ses esprits.
« Hein ? Quoi ? » murmura-t-il en étendant les bras.
« Où suis-je ? »
« Vous êtes chez votre meilleur ami, » répondit Benoît d'un ton mielleux.
Le son de cette voix rappela Raoul à lui-même. Il jeta autour de lui un regard étonné. Monsieur Benoît comprit le sens de ce regard et il dit en souriant. « Nos convives sont partis. Ma nièce est couchée. Nous sommes seuls. »«
J'ai dormi ?» s'écria Raoul avec confusion.
« Et vous avez pardieu bien fait, mon jeune ami. N'êtes-vous pas ici chez vous ?»«
Mais, mademoiselle votre nièce et ces messieurs, qu'ont-ils dû penser de moi ?»«
Ils ont pensé que vous étiez fatigué d'un long voyage à cheval et que vous aviez succombé à un irrésistible sommeil.
Voilà tout. Rien n'est plus simple.
Vous m'affirmez qu'ils n'ont pas pris de moi une trop déplorable opinion ?
Je vous le jure, sur l'honneur.
Ah, vous me rassurez un peu.
Soyez-le tout à fait.
Et maintenant, mon cher hôte, je vais vous remercier de votre gracieuse hospitalité et prendre congé de vous.
Rien ne presse.
Il se fait tard et je me sens la tête lourde.
Quand aurai-je l'honneur de vous revoir ?
Quand vous voudrez.
Le plus tôt sera le mieux. Vous savez qu'il y aura demain matin du nouveau pour votre affaire.
Espérez-vous donc qu'elle réussira ?
Je n'en doute pas un instant.
Mais cette offre si généreuse que vous m'avez faite au sujet des 10 000 francs, je ne sais vraiment si je dois l'accepter.
Pourquoi donc pas ?
Je crains d'abuser.
Enfant, j'offre de bien bon cœur. Et d'ailleurs, il me semble, je ne sais pourquoi, que vous êtes un peu de la famille.
Cette allusion si transparente à la possibilité d'un mariage entre Émeraude et Raoul fit battre le cœur du jeune homme. Il saisit de nouveau la main de Monsieur Benoît et il la serra.
« Selon toute apparence, je verrai demain matin le major, » poursuivit le marchand mercier.
« Vers midi, je passerai chez vous.
Et si toutefois vous n'avez pas d'autres projets et si rien ne vous appelle ailleurs, vous viendrez avec moi souhaiter le bonjour à ma nièce, qui sera fort heureuse de vous voir. »«
Le croyez-vous ? » demanda Raoul avec enthousiasme.
« Je veux lui laisser le plaisir de vous le dire elle-même. »
Ces mots terminèrent l'entretien. Monsieur Benoît et Raoul quittèrent la maison du Bélier d'Argent et allèrent ensemble jusqu'au boulevard. Là, Monsieur Benoît prit congé du chevalier, qui arrêta une chaise à porteur et se fit conduire à l'hôtel de la Toison d'Or. Fidèle à la consigne qu'il avait reçue, Jacques n'avait point quitté son poste. Il veillait, assis sur la valise que contenait toute la fortune de son maître, et il tenait un pistolet dans chaque main, prêt à faire feu sur quiconque voudrait entrer malgré lui dans cette chambre confiée à sa garde. Raoul arriva à la porte. Il frappa 3 coups, il se nomma, et Jacques, bien certain d'avoir reconnu la voix de Monsieur de la Tremblée, fit jouer les verrous et ouvrit.
« Tout est-il en ordre ? » demanda Raoul.
« Oui, monsieur le chevalier.
Personne n'est venu ?
Personne.
C'est bien. Va, mon enfant, je n'ai plus besoin de toi. »
Jacques ne se fit point répéter 2 fois ces paroles qui le débarrassaient d'une lourde responsabilité et lui rendaient le droit de dormir sans inquiétude et sans remords.
Raoul demeura seul. Il barricada sa porte avec soin.
Il examina les amorces de ses pistolets qu'il posa sur sa table de nuit, bien à portée de sa main. Puis il se coucha. Il éteignit sa lumière et il s'endormit presque à l'instant même d'un sommeil bienfaisant et profond. Des songes du meilleur augure, des songes mythologiques et anacréontiques vinrent peupler ce sommeil de leurs criants fantômes. Il sembla d'abord à Raoul que la petite chambre étroite et mesquine dans laquelle il se trouvait se métamorphosait soudainement en un riant jardin, véritable oasis de verdure embaumée du parfum des fleurs et dont le doux chant des oiseaux faisait une ruche d'harmonie. Seulement, chose étrange, au beau milieu de ce jardin et sur un socle de marbre blanc, se trouvait en guise de statue la valise de cuir noir qui contenait les 40 000 livres. Or, parmi les merveilles de cette riante nature, cette valise produisait un effet bizarre. Raoul ne se le dissimulait point. Mais voici que soudain une métamorphose inouïe s'opérait. Le cuir se changeait en marbre blanc. La valise prenait la forme d'une conque. Un frémissement se faisait entendre, pareil à celui d'une eau longtemps contenue qui murmure avant de s'élancer. Et du sein de la conque jaillissait un flot bruyant et continu, se creusant lui-même un lit au travers du jardin. Bientôt ce flot devint ruisseau. Bientôt ce ruisseau devint fleuve. Et ce fleuve, nouveau pactole, roulait des flots d'or pur, car chaque goutte d'eau qui coulait de la fontaine se changeait à l'instant même en un louis de 48 livres. Monsieur de la Tremblay assistait avec une joyeuse stupeur à ce spectacle inattendu, quand une musique douce et presque céleste se répandit tout à coup dans les airs, tandis qu'une voix harmonieuse chantait des strophes qui pouvaient se résumer ainsi, comme les ariettes d'opéra. « La naïade du fleuve d'or va paraître en ces lieux. Gloire à elle ! Oiseaux, dites vos chants les plus doux. Fleurs, répandez vos plus suaves parfums. Voici la naïade du fleuve d'or. » Cette naïade parut enfin. Elle se montra belle de sa jeunesse, belle de ses divins attraits, belle surtout de ce costume qui n'en était pas un et qu'avaient adopté les déesses par coquetterie. Raoul poussa un cri de stupeur et d'ivresse. Il venait de reconnaître Émeraude. Un vieux triton suivait de près la conque de nacre et d'azur qui servait de trône et de nacelle à la jeune divinité. La longue barbe blanche et la couronne de roseaux de ce demi-dieu ne dissimulaient qu'imparfaitement les traits placides de Nicolas Benoît. Aussitôt qu'il aperçut Raoul, il quitta le cortège. Il sortit du fleuve en secouant l'or qui ruisselait sur ses membres robustes. Il vint au jeune homme et il lui serra la main avec une bonhomie toute humaine. « Chevalier, lui dit-il, vous aimiez ma nièce, n'est-ce pas, alors qu'elle n'était que femme ?»« Plus que ma vie, s'écria Raoul. Et maintenant qu'elle est déesse ?»« L'adoration se mêle à mon amour, mais rien n'est changé dans mon cœur. »« Fort bien. Alors, épousez-la. »«
Une déesse ? Elle vous fera Dieu. »«
Un tel bonheur est un rêve, sans doute. »«
Non pas. Et la preuve ?» c'est que le grand prêtre de Neptune vous attend là-bas pour célébrer votre union.
L'épousée s'impatiente, ne la faites point attendre.
Ah, j'oubliais de vous dire que ma nièce vous apporte le fleuve d'or en dot, et que vous voici plus riche que ces pauvres diables des rois de la terre, qui n'ont pour tout trésor que quelques maigres milliards. Une guerre vide leur coffre. Vos trésors à vous combleraient l'océan.
Raoul suivait le vieux triton, et il épousait Émeraude par-devant l'autel de Neptune. Ce rêve dura toute la nuit.